bienvenue à notre invitée Marianne Rinaldi pour nous parler de son livre « La loi du silence dans l'éducation nationale » ou « Pas de vagues » aux éditions Maya. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on rappelle que vous êtes enseignante.
Oui, j'étais enseignante.
Vous étiez enseignante en collège.
En collège, en lycée d'abord, et puis il y a eu la séparation il y a longtemps. Je n'ai pas changé de bâtiment, mais j'étais nommée en collège.
Ce livre, c'était une nécessité pour vous de l'écrire et de l'éditer, bien sûr.
Tout d'abord, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre, bien que j'ai toujours aimé écrire, mais pour moi. Et puis, une fois en retraite, j'ai essayé d'oublier ce qui avait été très dur. Mais au bout de quelques années, des souvenirs pénibles ou parfois drôles me sont remontés à la surface, un peu comme les bulles qui remontent à la surface dans l'eau. Et j'ai commencé à les noter, comme ça, comme ça. Et lorsque j'ai eu pas mal d'anecdotes de noter, je me suis dit, j'étais indignée de ce que j'avais vécu. En y repensant, je me suis dit, il faut témoigner, il faut faire savoir toutes les difficultés que vivent les gens, pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans le domaine, c'est le domaine que je connais, évidemment. Et donc, l'idée m'est venue d'écrire un livre. J'ai donc relu, j'avais gardé, heureusement, énormément d'archives personnelles, administratives, de coupures de journaux, textes officiels, des notes que j'avais prises sur des émissions, par exemple d'Élise Lucet. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à relire ces archives parce que je me suis dit, il ne faudrait pas que mes souvenirs déforment la réalité. Donc, je veux prouver que ce que j'écris est complètement vrai par ces archives qui forment donc un état des lieux. La condensation de ces archives forme un état des lieux qui tient le dernier tiers du livre, en compensation du côté affectif des 44 anecdotes. Voilà.
Donc on peut voir qu'en feuilletant, en lisant votre livre, que évidemment les élèves ne sont pas toujours bien tendres et que c'est parfois difficile, peut-être quand on exerce au début, en tout cas de sa carrière, son métier avec passion. Comment vous avez vécu ça au début de votre carrière d'enseignante et jusqu'à la retraite? L'évolution peut-être des comportements.
Oui, j'ai pu constater en 37 ans d'exercice, c'est important, j'ai pu constater la dégradation générale. Je me disais toujours, c'est pas possible, on est tombé assez bas, on a de l'eau jusqu'au cou, ça va pas continuer, ça va remonter. Non, j'ai assisté à une dégradation continuelle des conditions, car au début c'était tout à fait faisable. Et quant aux élèves, il y a, comme je dis dans le livre, il y a un dixième des élèves qui, surtout à la fin, surtout les dernières années, posent problème. Les autres les suivent plus ou moins, mais la responsabilité en est à la hiérarchie et particulièrement au ministère, qui fait pression sur les différents niveaux de hiérarchique jusqu'aux professeurs, jusqu'aux administrateurs. Donc ça n'est pas un livre qui montre la montée de la violence, c'est certain. La preuve, le harcèlement entre les élèves, je n'ai pas assisté tellement directement, mais j'ai pas mal d'archives sur la question. Et ce harcèlement va avec les difficultés de travailler, le mépris des enseignants, le mépris des employés. Et je voudrais bien citer un livre qui m'a beaucoup touchée, qui n'est pas le mien, qui vient de sortir il y a quelques semaines. C'est un ouvrier de chez Michelin, Jean-Michel Frixon, qui a écrit « Michelin, matricule F276-710 », qui a travaillé plus de 40 ans chez Michelin et qui raconte, c'est incroyable, c'est un ouvrier, il raconte la même chose que moi, professeur. Il se plaint de la dégradation continuelle, de la manière dont on méprise de plus en plus les employés. On est parti d'un paternalisme. Moi, je ne suis pas partisane du paternalisme. Mais on est parti d'un paternalisme ou d'une situation supportable à un mépris total et la dictature de l'actionnariat. Je pourrais vous faire des... J'ai envie de promotionner le livre de Jean-Michel Frixon parce qu'il dit des choses très justes. Il n'a pas fait d'études, mais il est très cultivé. Il s'est cultivé, il a eu beaucoup de patience. Ça n'est pas un militant de gauche du tout. C'est quelqu'un qui a été très patient, qui a suivi ce qui se passait avec intelligence, qui s'est cultivé, qui s'en est sorti grâce au sport. Il était champion sportif, c'est qu'il a aidé à écrire d'ailleurs, paradoxalement. Et je pourrais faire toutes sortes de... Si j'ouvre presque n'importe quelle page, quand il parle de la rigueur des directives européennes, la pression de l'actionnariat... La malléabilité est poussée à son sommet, la peur est exacerbée, il parle d'une angoisse permanente. Alors, avec en plus, pour les ouvriers, les conditions matérielles que je n'ai pas connues, les conditions matérielles très difficiles, la fatigue physique, la toxicité des environnements, mais le climat de peur, les petits chefs, alors ça, là, nous nous rejoignons très bien, les petits chefs qui jouent les... qui font la... La loi qui instille la terreur. Beaucoup de ses employés courbaient l'échine face à elle pour ne pas avoir à subir d'éventuelles représailles par la suite. C'est tout à fait valable et c'est valable dans le public comme dans le privé. Alors, je suis très reconnaissante à ce Jean-Michel Frixon qui, comme moi, de dénoncer. On est à une époque où, heureusement, la parole s'est libérée dans certains domaines, l'inceste, le viol... L'écologie, évidemment, et c'est très bien. Mais il faudrait, je pense, mon message, c'est qu'il faudrait que tout le monde, comme Jean-Michel Frixon, comme moi, dans tous les domaines, il faudrait prendre la parole et dénoncer. Nous sommes face...
Les conditions de travail, plus particulièrement, c'est ça que vous voulez...
Oui, et le système social. Je n'ai pas écrit un livre politique, mais il est évident que je fais pas mal d'allusions, comme M. Frixon, d'ailleurs. Qui n'est pas un militant de gauche.
Lancer des alertes, c'est votre...
Voilà, je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens soient des lanceurs d'alerte. Alors on me répond parfois, des proches, qui sont d'ailleurs très sympathiques, me disent, c'est bien joli de dénoncer, tu dénonces, mais qu'est-ce que tu proposes ? Moi je réponds, beaucoup de Français ont énormément de propositions positives à faire. J'en aurais. Comme beaucoup de gens. Mais tout ce que nous pouvons proposer est, à un moment ou l'autre, écrasé par le monstre de la loi du profit, l'actionnariat, etc., la finance, écrase tout sur son passage. Un simple exemple, tout le monde est pour la culture bio. Les réformes de la politique agricole commune viennent de diminuer les subventions à l'agriculture biologique. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Les idées, elles sont là, les idées positives, il y en a énormément de la part des gens. Mais constamment, on se heurte à un monstre qui ne connaît que la loi du profit, profitant à une minorité, évidemment. D'où l'écrasement des travailleurs, des employés, des salariés. Et d'où le mal-être, les suicides, les dépressions, etc., dont parle M. Frixon et dont je parle aussi. Donc tout est lié.
Qu'est-ce que vous auriez eu envie du temps où vous exerciez votre métier ? Être soutenu par l'éducation nationale ? Ce que vous auriez eu besoin à cette époque-là ?
Nous n'avons jamais été soutenus par le ministère. Nous avons eu... Monsieur Lang, je cite Monsieur Lang, qui est le seul qui a amélioré la situation des professeurs artistiques. Le seul. Je ne suis pas, politiquement, je ne suis pas de son bord, mais c'est le seul qui a fait quelque chose pour la culture et pour les professeurs artistiques. Autrement, je parle d'un suicide qui a eu lieu en 2019 à 35 km d'ici, du côté de Barham, qui a suivi un autre suicide d'instituteur qui avait lieu 2 mois avant dans l'Oise. Monsieur Frixon, dans son livre, parle de suicide d'une collègue de chez Michelin. Il y a eu des suicides chez Orange, il y a eu un procès notoire. Il y a eu des suicides de cadres chez Renault. Enfin, on ne peut pas tolérer ça. Et les propositions positives, je suis pour, mais il faut avant tout dénoncer. On parle de terrorisme, on nous menace du terrorisme, du virus. Alors, il y a les morts du terrorisme, il y a les morts du virus, mais on ne parle jamais des morts, qui sont très nombreux, de la maltraitance au travail et du mépris des travailleurs.
Ce livre s'adresse à tous.
Oui, ça n'est pas un livre sur les professeurs de musique, je ne le souhaitais pas du tout. Évidemment,
L'enseignement que vous faisiez, c'était la musique ?
La musique, mmh. La musique. Ça n'est pas mon but, évidemment, il y a davantage d'allusions sur ce genre de cours, puisque c'était le mien, mmh. Mais de nombreuses anecdotes parlent de mes collègues de mathématiques, de sport, d'anglais, de français. Et de tout ce qui leur arrive.
Est-ce que vous avez fait lire ce livre à des collègues enseignants ?
Alors, j'ai un retour. Ce qui m'intéresse, ce sont les retours. J'en ai pas encore beaucoup parce que le livre vient de sortir. Il y a relativement peu de personnes qui l'ont lu encore. Mais j'ai le retour d'une collègue de mathématiques de la ville où je travaillais qui fait le point pour préciser ce qu'elle a subi. Elle est présente dans 5 de mes 44 anecdotes. Elle a été particulièrement visée par la hiérarchie d'une manière lamentable, de manière hypocrite. Et elle était très, très maltraitée, alors que c'était une bonne professeure de mathématiques, passionnée de son métier.
Donc un livre qui s'adresse aux enseignants, mais pas que, aux parents aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux parents d'élèves
Oui, je pense, oui, à tout le monde, mais évidemment, en particulier aux enseignants qui se reconnaîtront peut-être, aux syndicalistes, à tous les gens qui luttent contre une société qui se dégrade, dont l'atmosphère se dégrade énormément. Nous sommes en train de perdre tout ce que nos grands-parents avaient gagné, en particulier en 1945.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes évidemment remise en question par rapport à votre pédagogie, si on peut dire ça comme ça ?
Ah, je n'ai fait que ça pendant des années.
Ouais.
C'est-à-dire, je me suis dit, je n'ai pas toutes les qualités. Chacun a un mélange de qualités et de défauts. J'en ai certainement des qualités, mais j'ai aussi des défauts. J'ai dû lutter contre une certaine timidité quand j'étais jeune. Donc, j'attribuais mes difficultés à peut-être de la maladresse de ma part. J'ai essayer de faire pour le mieux. Et il est venu un moment, je l'explique dans le livre, dans certaines anecdotes, où en voyant travailler des collègues pour lesquels j'avais beaucoup d'estime et qui étaient méprisés, piétinés par certains enfants qui avaient tous les droits, évidemment, c'est le 1/10 des enfants les plus mal élevés, les plus violents. Et en voyant ces collègues qui avait vraiment toutes les qualités pour moi et qui était piétiné, j'ai compris. Je me suis dit, non, il faut arrêter de se culpabiliser.
Est-ce que vous avez eu un moment envie de changer de collège ? Est-ce que ce sont des croyances qu'on peut avoir que c'est mieux dans d'autres endroits ?
C'est certain qu'il y avait, dans certains collèges, il y avait davantage de problèmes que d'autres. Tout dépendait de la direction. J'ai eu parfois, à 2 ou 3 reprises, j'ai eu des directions qui étaient plus humaines. Une en particulier qui était très bien, vu les circonstances, quelqu'un qui était très méritant qui malheureusement est parti en retraite assez rapidement. Il avait fait l'ouverture du collège où je m'étais fait muter, dans un beau quartier, sans problème apparemment. Les problèmes ont recommencé. Et ce principal de collège était très apprécié. Il était tout le temps sur le terrain. Je l'en remercie dans mon livre. Il n'a pas beaucoup profité de sa retraite, d'ailleurs, il est mort assez rapidement, je le regrette. Mais ça n'est pas le cas de tous les directeurs, de tous les responsables, qui sont souvent préoccupés avant tout de faire carrière, de toucher des primes, et de ne pas faire de vagues, surtout.
Enfin, un directeur de collège, c'est celui qu'on appelle le principal ?
Le principal.
Le principal. Donc son rôle à lui, enfin, c'est de soutenir les enseignants et...
Je pense que c'est devenu un métier très, très difficile, très compliqué, parce qu'il a sur le dos les élèves, les professeurs, les grosses difficultés avec certains élèves, les professeurs, les parents, la hiérarchie, et il faut composer... Et essayer de ne pas faire de vagues. C'est ça, surtout, le problème. Et je pense qu'autrefois, je le montre aussi dans des anecdotes, je pense que les principaux et les proviseurs d'autrefois, j'en ai connu, avaient davantage de liberté, d'initiative, et donc parfois davantage d'humanité. Et d'ailleurs, M. Frixon, de chez Michelin, parle d'une certaine humanité qui avait progressivement disparu. Nous parlons du même problème.
Oui, c'est un problème général.
Général, oui.
Que l'on retrouve partout.
Et ça vient d'en haut, c'est ce que j'essaye de montrer. C'est la pression qui vient d'en haut, qui vient de l'Union européenne, d'ailleurs aussi. On fait pression sur à chaque échelon. Chaque échelon fait pression sur l'échelon qui est immédiatement en dessous, ce qui cause toutes ces injustices et toute cette hypocrisie.
Donc aujourd'hui, par ce livre, vous témoignez de ce que vous avez vécu et vous encouragez chaque citoyen à lancer... À faire des vagues, finalement.
Exactement. J'ai d'ailleurs une anecdote qui s'intitule « La classe de 6e fait des vagues ». C'est volontaire. Oui, je voudrais que nous soyons tous des lanceurs d'alerte. En soulignant que certains lanceurs d'alerte, des journalistes parfois, se retrouvent dans des procès extrêmement graves quand ils dénoncent la pollution ou des malversations. C'est très mal vu, d'où le silence de beaucoup de gens, qu'ils soient journalistes ou simplement travailleurs dans le public, dans le privé, qui n'osent pas perdre, qui ont peur de perdre leur emploi, de perdre des avantages, d'être licenciés. Mais chaque fois que l'on peut, il faudrait témoigner, il faut essayer d'être lanceur d'alerte.
Est-ce que vous avez envie de lire un extrait de votre livre ?
Ah, j'aurais presque envie de je ne sais pas lequel prendre. Je voudrais quand même... J'ai mis trois citations. Je voudrais en dire une de la part d'une personne, d'un savant très connu, Albert Einstein. « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Martin Luther King, ce que l'on doit craindre, ce ne sont pas les cris des méchants, mais le silence des bons. Mais s'il fallait citer un extrait de mon livre, je ne saurais pas lequel prendre. J'aurais presque voulu citer un extrait du livre de Jean-Michel Frixon.
Eh bien, allons-y.
Tout à l'heure, j'en ai repéré beaucoup. C'est assez troublant, émouvant. Dans toute entreprise, comme dans la vie, une personne est un être humain avant tout que l'on doit respecter. Je souscris, je suis parfaitement d'accord avec ce je l'appellerais presque un collègue, il est ouvrier de chez Michelin, il travaille dans les pneus. C'est presque un camarade, voilà. C'est presque un ami, alors que je ne le connais que par son livre.
Un autre extrait ?
Jamais je ne ferai plus vraiment confiance à mes différents supérieurs hiérarchiques successifs, et je dois l'avouer à l'entreprise également. La plaie était trop profonde, la cicatrice trop prononcée. La blessure et l'humiliation que je venais de subir étaient trop considérables. On ne peut pas sortir indemne de cette épreuve-là. Ça fait écho à ce qui m'est arrivé un an avant ma retraite et que je décris dans mon livre. Le sport fut mon meilleur médecin, mon meilleur psychologue, mon meilleur médicament. Là aussi, ça fait écho à ce que j'ai vécu, car j'ai abandonné mon instrument qui n'était pas directement utile dans mon métier. J'ai abandonné le fait de faire de la musique pour moi et afin de faire du sport. Je n'étais pas championne, je fais du sport à un tout petit niveau, mais je crois que c'est grâce au sport comme lui que j'ai réussi à tenir le coup.
Un dernier extrait.
Du Moyen-Âge à aujourd'hui, la lutte des classes est hélas un combat sans fin. Alors, un journaliste de la Provence que je remercie m'a produit récemment un article qui me fait dire, ce qui n'est pas tout à fait exact, que je ne crois pas que les choses vont changer. Si, je crois que les choses changeront, je ne sais pas quand, je ne les verrai peut-être pas. Sinon, je n'aurais pas écrit ce livre et sinon, je ne serais pas militante comme l'ouvrier de chez Michelin. Voilà.
Marianne Rinaldi, est-ce que tout est dit ? Déjà, on va voir où est-ce qu'on trouve votre livre, La loi du silence, dans l'éducation nationale ou pas de vague ? Où est-ce qu'on peut l'acheter ?
Eh bien, je suis en pourparlers, c'est le début, il n'y a pas longtemps qu'il est publié, et je vais voir la librairie de la presse à qui j'ai laissé mon livre pour voir s'ils acceptent. Je vais peut-être faire des signatures aussi dans quelques jours. Avec la complicité d'un ami qui est écrivain connu dans la région, qui s'appelle Jacques Meurant, je vais peut-être faire des signatures. Voilà, mais je ne veux pas encore m'engager.
D'accord. Je vous remercie, Marianne Rinaldi, pour la présentation de ce livre. Et puis, on va reparler, donc, donner les références du livre, qui est votre nouveau livre de chevet, puisqu'il est. Vous vous retrouvez énormément dans ce livre.
Vous voulez que je redise oui.
Voilà.
Michelin matricule F276-710, c'est difficile à retenir, de Jean-Michel Frixon, édition nombre 7.
Merci, et puis bonne journée, et puis vous nous tiendrez au courant de la suite de ce livre et de ses rebondissements.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir, bonne
au revoir.
Journée.